Je te présente Carmen. Tu compléteras si il manque des éléments importants. Donc, tu es en direct de la région de Montréal, au Québec. Tu as. Hello, ah, I see you both. Ok. Carmen, donc tu as une maîtrise en art plastique de l'université de Bucarest en Roumanie, une maîtrise en art thérapie de l'université Concordia, j'imagine, en Amérique du Nord. Ta pratique, c'est surtout les thérapies expressives. Donc, c'est pas forcément très développé en France, cette idée de expressive therapy ou creative therapy. Tu fais aussi l'approche par le jeu de sable et tu es à la tête de l'association québécoise d'art thérapie et tu as créé la World Conference of Art Therapy. Et tu as aussi un certificat post-universitaire en thérapie cognitive et comportementale.
J'ai une petite pratique privée avec quelques collègues à art, comment dire, thérapie par les arts créatifs. Et aussi, je suis la fondatrice de Creative Arts Therapies Event et l'organisatrice de World Art Therapy Conference. Peut-être vous avez entendu de ça. Et je vais commencer avec un petit peu de théorie. Dans mes recherches, comme j'ai travaillé beaucoup avec des communautés de Premières Nations, des communautés indigènes, et aussi j'ai comme travaillé beaucoup dans la l'art thérapie qu'on dit publique dans les ruches d'art. J'ai fait beaucoup de recherches dans ce contexte. Je veux amener un petit peu de théorie pour dire qu'en fait, c'est pas hors de contexte le fait que la thérapie en communautaire amenait ces deux volets, l'art thérapie plus le volet communautaire, a en fait des bénéfices. Et je vais commencer avec la co-régulation. C'est un concept que beaucoup de psychologues, psychiatres vont amener. Ben, le plus récemment, c'est quand même un trend à l'Amérique du Nord de comprendre qu'en fait, la co-régulation joue un rôle extrêmement bénéfique dans la guérison de trauma. Et c'est, je vais parler un peu de chaque, mais pas trop, je ne veux pas te retarder trop. Il y a Peter Levine qui parle des co-régulations après un événement traumatique. Peter Fonagy, c'est sûr que vous le connaissez, il parle de neurones miroirs et leur rôle dans apaisement des symptômes. Bruce Perry, qui va parler, qui est le développeur de théorie neuroséquentielle et qui va parler aussi à partir de son expérience dans des zones de crise, de comment en fait la communauté aide. Thomas Hubble, c'est nouveau, qui parle vraiment de la guérison collective et du fait que c'est pas juste l'individu qui doit guérir, c'est aussi un travail collectif. Et Dan Siegel qui parle plutôt des co-régulations personne à personne. Alors, je vais partir de ce slide plus loin, aller un peu plus dans qu'est-ce que j'ai étudié sur le rôle de thérapeute, en fait, la présence du thérapeute dans les séances. Et vous allez avoir toutes les quatre, mais sont beaucoup plus, qui en fait, disent que les capacités interpersonnelles, la volonté d'être non jugemental, La capacité de mobiliser le client, c'est pas nécessairement ça tient pas nécessairement des techniques qu'on apprend. Et le client va pas avoir un super bon progrès à partir des techniques, oui, ça aide, ou à partir de comment dire de qu'est-ce qu'on apprend, de nos approches, mais c'est surtout de notre présence dans la séance et comment le client voit ça comme quelque chose que soutient leur développement et leur apprentissage des outils. Alors, je veux pas insister trop, que ce que je voulais dire, c'est que, en fait, je crois que c'est un petit peu compliqué de démêler toutes les approches qu'on apprend pendant notre vie. Et comprendre que finalement, en fait, qu'est-ce qu'on doit apprendre, c'est être avec le client en toute sincérité, avec notre expérience, notre réflexion, et avoir une très bonne alliance thérapeutique qui va en fait mobiliser le client pour à l'amener au but des thérapies. Alors, pourquoi j'amène tout ça? Parce que, en fait, c'est relié aussi à ces théories duquel j'ai parlé avant. C'est relié au fait que la connexion est très importante dans la relation thérapeutique. En fait, le client est pas capable de bouger, de se motiver si l'alliance thérapeutique est pas assez bonne. Et je veux sauter dans un autre registre maintenant, parce que je voulais dire que, en fait, c'est pas la psychologie qui a découvert la roue. En fait, les pratiques d'éco-régulation, d'avoir de soutien, un bon réseau de soutien, c'est pas nouveau. On le connaît depuis des milliers d'années. Notre communauté le fait depuis la nuit des siècles. Et il y a des pratiques communautaires, en fait, qui aident, comme nous, on aide dans ce moment, nos clients, de passer à travers leurs problèmes de vie, heureux ou pas heureux. Mais ces pratiques existent depuis la nuit des siècles, et la communauté a ce rôle de participer à qu'est-ce que c'est le plus important de chaque membre de la communauté, apaiser les sentiments, participer aux joies ou participer, comme vous allez voir, au deuil de la personne, et respecter aussi la mort de la personne bien-aimée de ce membre de la communauté. Alors, j'insiste pas sur ça, mais c'est surtout le fait que, en fait, la collaboration, la co-régulation, c'est ce mot que je vais utiliser beaucoup, ça vient pas de maintenant, ça vient pas de l'alliance thérapeutique, mais c'est confirmé par le fait que n'importe quelle technique on applique, n'importe quelle expérience on a, si l'alliance thérapeutique est pas bonne et si on réussit pas à amener le client dans une fluidité de discussion avec nous, il n'y a pas trop d'avancement. C'est aussi pourquoi j'amène ça, parce que on va parler justement de l'art thérapie en espace public, qui ressemble vraiment à qu'est-ce que c'était avant. Le fait le plus important que je retiens de ce slide, c'est que avant, les gens voyaient le temps comme un peu circulaire, interrompu par des fêtes, des célébrations. Et maintenant, notre temps est devenu une ligne directrice monotone. On n'a pas vraiment de temps de faire une pause, de célébrer ou de se souvenir, disons, de ceux qui sont partis de notre communauté. Alors, tout ça pour dire que ces pratiques qu'on réactive en fait dans la thérapie sont là depuis la nuit des siècles et on l'a dans nous. On les sent, on sent que c'est important. Et je reviens dans les histoires d'art thérapie pour dire que l'art thérapie en fait a pas copié nécessairement, mais a compris que ce modèle communautaire est un modèle qui va guérir sans l'impression d'avoir nécessairement un but thérapeutique, de pousser, de voir s'il y a des effets positifs. C'est surtout une sorte de fluidité. Les gens qui viennent là tranquillement vont avoir plus de réseaux de soutien. Les gens qui viennent là vont être plus capables de socialiser, d'être vulnérables, de se montrer comme ils sont, d'apprendre des choses, de partager leurs propres connaissances. C'est l'art thérapie, soit en pratique privée, et ça, c'est un mot qui Janis Steenbutt, son mentor, a utilisé pour la première fois. C'est elle aussi qui a fait les premières ruches d'art, qui peuvent être construire, bâtir une communauté dans les écoles, hôpitaux, musées, centres communautaires, ruches d'art, etc., qui sont de longue durée, et on laisse la communauté se former tranquillement. Et la communauté en soi, on va voir plus tard, va être celle qui gère cet espace sécuritaire. Et c'est surtout, c'est aussi l'art thérapie pour des communautés en situation de crise, qui est de courte durée, mais aussi, aussi très important et qui a des effets bénéfiques. Alors, je vais parler juste un petit peu. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de ruche d'art, peut-être oui. Que les ruches d'art, et vous voyez ici dans ma droite, la ruche d'art d'Université Concordia à Montréal, sont des espaces où les gens viennent, partent, les gens viennent créer, viennent jaser avec les autres, ou juste se sentir bien dans l'espace. Il y a aucune pression de rester là de le début jusqu'à la fin, aucune pression de faire une œuvre d'art ou de, je sais pas, parler avec les autres. Il y a vraiment une fluidité de viens comme t'es bien accueilli et toute la communauté va respecter ton humeur, va respecter qui tu es, où tu veux te situer dans ce moment-là. Alors, je vous mets un petit peu disons, les lignes directrices d'une ruche d'art. J'ai animé une ruche d'art pendant quelques années avec mes collègues à l'Université Concordia. Les ruches d'art ne sont pas des projets individuels non plus, sont des projets qui se font en communauté. Et on avait une équipe aussi. Et c'est ça, c'est la croyance radicale en créativité de chacun. Il n'y a pas des gens qui ne savent pas créer. Il y a des gens qui peut-être n'ont jamais utilisé des matériels artistiques, mais c'est pour ça qu'on est là, juste les initier un petit peu. Mais on ne croit pas qu'il y a des gens qui sont pas capables d'être créatifs et artistes. C'est aussi quelque chose de très important et c'est ma ligne directrice d'autres gestions communautaires et que ça permet à la communauté de s'autoréguler. Ce sont des gens là qui vont peut-être depuis le début d'une ruche, sont des réguliers, comme on leur dit, qui ont appris à être dans une espèce, espace communautaire. Ils se sentent en sécurité. Alors, par leur sécurité, ils vont amener cette sécurité à tous les autres qui viennent, qui sont nouveaux. Ils les accueillent et ils vont les amener les présenter peut-être à la ruche et les aider à s'intégrer. Alors, c'est beaucoup moins de pression sur, si vous pensez à un groupe, c'est beaucoup moins de pression sur l'art thérapeute. L'art thérapeute est juste là pour regarder tout l'ensemble et être vigilant, c'est sûr, pour qu'une crise n'arrive pas, mais c'est laisser un peu la communauté s'autogérer. Et c'est sûr qu'on est inclusive, on accueille chaque personne comme elle est, peu importe le statut social, l'âge, la couleur de peau, vraiment, c'est pas important et ça marche. Alors, c'est ça, c'est juste une image des ruches. Et aussi, à notre droite, je vais garder le temps. Aussi, à notre droite, vous voyez une image de des femmes qui étaient ensemble et apprenaient coudre peut-être ou faisaient leurs travaux en jasant et en faire quelque chose manuel. Ça ressemble beaucoup à ça. C'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, on prend tout ce que l'humanité nous avait appris avant et on va translate, je sais pas comment dire ça, on va transposer dans les ruches parce que c'est quelque chose qui fonctionne des milliers d'années. C'est quelque chose qu'en fait la psychologie, elle apprend aussi. La psychologie aussi s'ouvre sur ça, mais la psychologie a été pour beaucoup des siècles un peu enfermée dans le présent, dans la relation de individu, et c'était focusé sur l'individu, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'individu en fait quand il va se retourner dans la communauté? Alors, ce type de communauté font exactement le contraire, c'est que l'individu guérit, mais la communauté a aussi maintient, lui aussi est partie d'une communauté qui maintient un support pour les autres et pour lui-même. Alors, il y a beaucoup des fonctions ici qui sont entremêlées et ça fonctionne beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide en fait, sans rien dire de quelques problèmes mentaux, des problèmes mentaux ou des je sais pas quoi. C'est tout fluide et la personne prend et donne qu'est-ce qu'ils ont besoin. Bon, pourquoi les ruches d'art marchent? C'est exactement qu'est-ce que j'ai commencé à dire. Parce que c'est toute la communauté qui gère l'espace. En fait, la communauté aide à mettre les matériaux à leur place après, à faire l'espace beau, amène des fois des matériaux artistiques, des donations. La communauté est vraiment impliqué. Et c'est ça un peu qu'on a perdu, en fait, dans notre, comment dire, dans notre relations sociales, c'est que on est un peu isolé de donner et recevoir d'une communauté. Il y a des gens qui donnent plus et qui s'impliquent plus, et d'autres qui sont juste passifs et font rien. Et la communauté, c'est ça qui nous apprend, de donner un peu plus pour ceux qui ont cette malaise et ils savent pas quoi donner, ils savent pas quoi faire nécessairement. Et apprendre de vraiment échanger dans tous les niveaux. Apprentissage de compétences sociales, briser l'isolement, prendre des pressions sur travailler sur des problèmes comme dans la face-à-face. Mais les problèmes sont quand même travaillés parce que c'est tout une fluidité ludique. On est curieux de qu'est-ce que les autres font. On veut essayer. On veut essayer de nouveaux matériaux. Il n'y a pas de défi de compétition comme des fois dans les groupes d'art-thérapie. On travaille ensemble côte à côte. Alors, c'est pas vraiment que mon œuvre est meilleure ou que ton œuvre est meilleure. C'est vraiment en sorte de on est ensemble. Et aussi, l'apprentissage mutuel, c'est trop souvent quand dans les ruches, on voit un membre de la communauté dire à l'autre, est-ce que tu peux m'apprendre ta technique? Et alors le partage commence dans toute simplicité, dans toute sincérité. J'ai encore, si je ne me trompe pas, 2, 3 minutes.
Oui, tu peux prendre 2, 3 minutes et ça nous laissera 10 minutes de questions. J'essaie de synthétiser un peu ce qui se dit dans le chat.
OK, super, super. Je vois qu'il y a beaucoup dans le chat, mais je ne peux plus me focusser. Alors, pour ça, je vais parler aussi un petit peu, très peu, de notre approche. En fait, on a quelques collègues qui essayent d'amener une approche, en fait, un peu plus sur l'art et la communauté. C'est sûr que nous, toutes venant de cet espace communautaire, on a été des facilitatrices et superviseurs dans la ruche ou dans des ruches. On est habitués avec cet espace d'échange. Alors, qu'est-ce qu'on amène dans la supervision et c'est surtout dans la supervision des groupes? Le même concept. Inviter les thérapeutes, les superviser à travailler avec des métaphores et surtout bâtir la confiance en soi, bâtir cette image de soi qui va leur être aidant dans les séances, en connaissant que en fait la confiance la relation thérapeutique est plus importante même que toutes les techniques. Alors, on se focus beaucoup sur avoir un sort de image de soi qui va être une image assez forte de je suis bien dans ma peau d'art thérapeute. On offre une sorte de petite directive, disons, métaphoriques qui les aident à mieux se comprendre, même à se poser des questions sur quelle est ma flamme en art thérapie. Est-ce que je veux continuer avec cette population? Est-ce que je veux pas continuer avec cette population? Alors, c'est des idées très comment dire, très profonde qui se discute en fait dans la supervision en groupe parce que on ouvre pour l'espace pour la communauté et pour leur partage qui peut être individuel. Après, on revient dans le groupe et c'est surtout cette exploration artistique qui amène beaucoup, beaucoup de contexte de profondeur sans, en fait, être très intrusive dans leur vie. C'est tout. Je voulais juste faire un tour de c'est quoi la communauté dans l'art thérapie. C'est ça, ça amène un apprentissage riche, un sentiment de communauté, d'appartenance. Il y a multiples formes de soutien dans la communauté. On se sent en sécurité. Il y a une sorte de co-régulation. Et on apprend les propres limites de vulnérabilité et confort dans l'espace.
Merci beaucoup, Carmen. Je vais peut-être poser une première question. C'est Anorio qui nous dit en quoi les ruches sont des espaces art thérapeutiques. Donc, j'ai l'impression qu'on a quand même un début de réponse. Et tu vas me corriger. Est-ce que la ruche, c'est peut-être quelque chose qu'on ne connaît pas encore trop en France, mais il y a des choses qui se mettent en place? C'est pas tout à fait un cadre thérapeutique parce que c'est un cadre communautaire, mais le fait de se dire que c'est quand même des arts thérapeutes qui sont là pour faire ces séances et accueillir, et le fait qu'il y ait une supervision en art thérapie, recréer ce lien. Alors voilà, c'est une question dans la question. Comment pourrais-tu préciser?
Je crois que c'est une nuance. En fait, c'est un cadre thérapeutique. C'est pas nécessairement un cadre clinique confidentiel. Alors, c'est ça un peu la nuance. Et oui, des fois, les ruches sont faites par des artistes. Je souligne que ça peut être bon parce que l'artiste peut avoir lui-même développé déjà je sais pas, des outils pour gérer une situation des crises et tout ça. Mais en fait, pourquoi on est des arts thérapeutes qui amènent ce concept? Parce que pour que la communauté apprennent en fait s'auto-gérer et s'auto-réguler, c'est nous qui donnons le ton, c'est nous qui sommes des modèles. Et alors, ça prend quand même quelqu'un avec des outils thérapeutiques, même si ça paraît pas trop, ça paraît trop léger et trop, comment dire, too good to be true. Ça paraît trop léger, trop facile. C'est pas facile, en fait. Après quelques heures d'être dans la ruche, c'est en fait quand même un processus de regarder tout le monde, de voir si tout le monde est correct, si les discussions se passent bien, s'il n'y a pas quelqu'un qui a des problèmes ou une crise, ou je sais pas. C'est quand même assez complexe.
Donc, tu utilises le terme clinique, et je pense que c'est là où, peut-être pour le public qui est là aujourd'hui, c'est cette nuance-là qui est importante. Et l'idée de, on n'a pas de projet de soins, on a une question sur le fait de comment les gens arrivent là. La démarche, elle n'est peut-être pas une démarche de soins, mais ce qui s'y passe va quand même être dans le soin. Et alors, tu n'étais pas là en tout début de colloque, vu le décalage horaire, mais on parlait de droit culturel et que c'est pas forcément le rôle de l'art thérapeute que d'apporter la culture aux personnes handicapées. Et donc, je pense que là, tous les cerveaux dans le public aussi se disent, alors, on fait pas un atelier d'animation en art thérapie, mais peut-être qu'on peut avoir un lieu ouvert comme une ruche en restant art thérapeute. Et donc, ça, voilà, je sais pas ce que tu peux en dire. Il n'y a pas de projet de soins dans une ruche.
Non, pas ouvert. Il n'y a pas un treatment plan. Il n'y a pas un plan de traitement.
OK.
Il y a un suivi journée par journée. Et il y a des gens qui vont venir deux, trois fois. Ils vont pas venir pendant 2 mois et ils vont revenir après. Alors, il n'y a pas un suivi qui peut se faire. On donne à la personne la possibilité de choisir, en fait. quand et comment ils veulent arriver dans les ruches et qu'est-ce qu'ils veulent en fait travailler. Il y a des gens qui sont très timides et ils veulent travailler, qui sont soit pas, un peu plus sociales. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Ils veulent être moins isolés. Ils veulent être se sentir, en fait, comment ils se disent, normaux. C'est dur à dire, mais oui, c'est une normalité que les ruches leur fournissent.
Carmen, merci beaucoup pour cette présentation. Ça nous permet de voir aussi et de répondre à une des questions qu'il y a eu avant de la différence entre le thérapeutique et la thérapie. Et on associe le thérapie, ou ici, pour nous, du côté clinique et le plan justement de traitement et d'intervention dans ce soin. Donc le thérapeutique peut être présent dans plein d'autres espaces avec de l'art et la thérapie correspond à un autre type de cadre, dispositif et tout. Donc c'est un petit peu ça. Et ça me parle aussi ce que vous présentez, Carmen, parce que, par exemple, pour l'Amérique latine, il y a beaucoup d'interventions art-thérapeutiques ou de thérapie artistique créative communautaire, parce qu'il y a quelque chose qui se fait à partir de la communauté et dû à la pluriculturalité aussi existante dans différents pays en Amérique latine et qui amène du thérapeutique, mais pas forcément de la thérapie où on va chercher plus en profondeur parce qu'il faut que le groupe et le collectif puissent se réguler, s'autoréguler, la personne qui vient accompagner a un certain savoir-faire pour pouvoir contenir et que ça ne bascule pas sur un autre registre qui a besoin d'un autre type d'accompagnement. Mais c'est vrai que ça se fait beaucoup sur les accompagnements communautaires et par les art-thérapies, sur d'autres visions, mais pas sur une dimension, comme vous dites, clinique ou de thérapie. Comme on cherche à la faire aussi ici en France pour la reconnaissance aussi du métier en tant que métier des soins. Voilà. Donc c'est riche de voir ces espaces et peut-être pour nous cette résonance à comment on se positionne dans différents espaces. Et comme Justine disait au début, on parlait justement des droits culturels, de cette accessibilité aussi aux arts et qu'à ce moment-là, ça relève pas de la thérapie, ni d'un but thérapeutique en soi, mais plus culturel, artistique, même si ça peut avoir des effets du côté du thérapeutique. Donc merci pour cette présentation qui nous génère encore plus de questions. Mais comment je me pose? Et voilà.
Ben, ça génère aussi des questions ici au Canada parce que en fait qu'est-ce qu'on amène? On amène une situation vraie. La communauté est très importante et c'est une situation qui est vraiment à l'encontre de qu'est-ce qu'on a appris que la psychologie est et qu'est-ce qu'on a appris de guérison? En fait, on croit que la guérison, c'est pour chaque individu. Ça doit être dans un cadre confidentiel. C'est juste avec le thérapeute ou le groupe qui est fermé. On vient avec toutes ces pratiques qui viennent de la nuit des temps, que, comme je disais, je ne peux pas insister plus. On découvre que, ben, attendez, ça marche aussi. Et ça fait du bien et c'est peut-être avec moins des ressources. Et en fait, ça guérit beaucoup des choses qui sont dans l'environnement et que la communauté, placer le client, en fait, dans une communauté, dans un environnement, il apprend de bien gérer ses interactions avec l'environnement. La thérapie clinique fait pas ça parce que on est avec la personne, on développe une alliance peut-être très bonne. La personne va dehors, il va aller dans son milieu, et bien le milieu est pareil, il peut rien changer. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas les outils de travailler dans son milieu, avec son milieu, parce que nous, on est vraiment en dehors de son milieu. On lui donne des outils, mais peut-être que ça ne s'applique pas. On ne sait pas.
Oui, et on n'aura pas le temps d'aller beaucoup plus loin, c'est dommage, mais ça me fait penser à la notion de validité écologique en recherche. où en fait on va essayer de voir si ça fonctionne dans le monde réel, au-delà du cadre de soins, et de transposer à l'extérieur. Et du coup, j'entends dans ce que tu racontes, Carmen, que en fait on peut le faire directement à l'extérieur peut-être, et ça renvoie aussi aux notions de d'approche systémique, voire ethnopsie, ethnographique, etc. Et là, je pense qu'on aurait besoin de tout un week-end pour aller plus loin. Mais voilà, je sais pas si tu veux répondre quelque chose juste sur ces éléments de validité écologique ou de systémie, et puis on s'arrêtera après.
Je crois que en fait, on doit pousser envers ça, mais avec comment on dit, avec attention. On veut pas transformer notre domaine d'art thérapie dans quelque chose qui devient comme simple et dérisoire aussi. Mais on va comprendre qu'il y a des éléments en fait dans la communauté. Dans les traditions qui sont généralement valables pour les humains en général, et on les prend pas dans la thérapie, on les oublie. Alors, où est comment dire, la fine line, où est la ligne qui sépare tout ça, je sais pas. Mais je crois que l'art thérapie doit vraiment prendre son chemin et pas essayer de devenir une sorte de psychologie juste pour avoir, je sais pas, une sorte d'acceptation de part de psychologues ou d'autres ordres, doit vraiment choisir ses moyens en conformité avec tous les apprentissages qu'on a jusqu'à date.
C'est une belle conclusion, ne pas être accepté que par la médecine. Mais il y a aussi d'autres validations. Ok. Merci, je pense que ça a inspiré notre public. Merci beaucoup de t'être rendue disponible, Carmen.